Radio Kapi.
Les informations, Babel Pongo Massimango.
Il y a eu ouverture hier lundi à Kinshasa de la semaine économique RDC Afrique du Sud, c'est jusqu'au vendredi, au cœur du débat, l'industrialisation et les investissements durables. Rebondissement dans l'affaire Kamuina Nsapu. Une mission est lancée depuis hier par la CNDH pour établir les faits. Elle va notamment enquêter sur les violations des droits de l'homme entre 2016 et 2017, ainsi que sur le meurtre de deux experts onusiens intervenus pendant cette période. Les intervenants à dialogue entre Congolais se sont penchés hier sur l'annonce du chef de l'État samedi devant les diplomates accrédités à Kinshasa. Félix Tshisekedi s'est dit ouvert au dialogue national tout en posant certaines conditions. Vous suivez ce qu'en pensent les invités de Guy Maté. Madame, Monsieur, bonjour. Avant d'aller plus loin, sachez d'abord qu'un accord de partenariat économique entre les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo a été signé hier lundi à Abu Dhabi par les ministres du commerce extérieur des deux pays, Dr Tani Bin Ahmed Al Zeyoudi et Julien Paluku. Cet accord qui découle de la ratification par la RDC en juillet dernier de l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, a été conclu en présence du président des Émirats arabes unis et du président congolais Félix Tshisekedi. Selon le ministre congolais du commerce extérieur, cet accord qu'il qualifie d'historique s'inscrit dans la stratégie définie par le chef de l'État, axée sur trois priorités, la diversification de l'économie, la diversification des marchés et la diversification des partenaires. On écoute Julien Paluku dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
C'est 2 février, nous sommes ici à Abu Dhabi pour finalement signer l'aboutissement de toutes ces discussions par lesquelles la RDC et les Émiratis signent cet accord qui lance un appel à nos opérateurs économiques que désormais nous allons échanger 6000 produits que nous avons transmis à la partie émiratie qui vont devoir entrer sur le sol des Émiratis ici. Vous savez qu'ils importent des États-Unis, ils importent de l'Europe, ils importent de l'Inde, ils importent du Brésil, mais le coût logistique de tout ce qu'ils importent est très très élevé. Voilà pourquoi on a commencé par les ports en eau profonde de Banana pour réduire le coût logistique afin de permettre que les produits qui viennent de la RDC entrent ici au moindre coût, devenant ainsi compétitifs par rapport aux autres produits à travers le monde. Donc cet accord pour le président, c'est un appel aux investisseurs privés que désormais le marché est là, parce que la trilogie que le président a lancée, c'est la diversification économique, c'est la diversification des marchés et c'est la diversification des partenaires.
Par ailleurs, un partenariat portant sur la construction d'un port à Matadi dans le Congo central a été signé par le directeur général de l'ONATRA en présence du vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba ainsi que de la ministre du portefeuille Julie Chikou. La vice-ministre des Affaires étrangères, Noëlla Aiyega-Natto, a également signé un accord relatif à la coopération de l'Académie diplomatique. Enfin, le ministre des Mines, Lou Atoum, a conclu un mémorandum d'entente avec son homologue émirati afin que les minerais congolais soient achetés directement en RDC par les Émirats arabes unis. Comme annoncé en titre, il y a eu ouverture hier lundi à Kinshasa de la semaine économique RDC Afrique du Sud. Acteurs publics et privés échangent en ce moment en vue de concrétiser des projets ou mieux encore transformer le dialogue en projet réel. Cette semaine qui se tient du 2 au 6 février à l'hôtel du Fleuve se penche sur l'industrialisation et les investissements durables. Nancy Tambou nous en parle.
Co-organisé par le Fonds de promotion de l'industrie FPI et le département of Trade, Industry and Competition d'Afrique du Sud, les travaux ont été officiellement ouverts par le vice-ministre Mwadian Vita, représentant la première ministre qui a souligné l'importance stratégique de cette rencontre pour le renforcement des échanges économiques entre la RDC et l'Afrique du Sud, ainsi que l'engagement du gouvernement à créer un environnement favorable aux investissements et à l'industrialisation.
J'aimerais conclure mon intervention en sollicitant l'apport de tous pour faire en sorte que cette mission marque le début d'une nouvelle étape, celle d'une coopération industrielle africaine ambitieuse, concrète et durable.
Le directeur général du FPI, M. Ntumba Bantukonke Hervé, a présenté les mécanismes mis en place pour lever les contraintes financières, structurer les partenariats publics-privés et soutenir l'investissement productif.
Au terme de cette semaine, nous ne voulons pas seulement des intentions, nous voulons des projets structurants identifiés, des partenariats formalisés.
Prévu du 2 au 6 février à l'hôtel du Fleuve à Kinshasa, cette semaine économique illustre la volonté des deux pays de bâtir des partenariats solides au service du développement industriel et économique.
Rebondissement de l'affaire Kamuina Nsapu, une mission d'établissement des faits en réponse aux violations des droits de l'homme liées au massacre de populations civiles au Kasaï central et au double meurtre des experts onusiens a été lancée hier lundi à Kinshasa. L'annonce de la Commission nationale des droits de l'homme de la République démocratique du Congo. Le communiqué annonce également le début effectif des opérations de la mission. Cette commission rappelle en même temps que ce nouveau message fait suite à un communiqué son communiqué du 6 janvier dernier en rapport avec le procès en appel du double meurtre des experts Zaïda Catalan et Michael Sharp. Lievin Bunga.
Cette mission a pour mandat, selon le document, d'enquêter sur toutes les violations des droits de l'homme et atteintes à ces droits liés au massacre des civils dans le Kasaï central entre 2016 et 2017 pendant la crise Kamuina Nsapu. Elle va identifier les auteurs des violations des droits de l'homme liées à ces massacres ainsi qu'au meurtre des deux experts onusiens, Zaïda Catalan et Michael Sharp. Elle devra aussi formuler des recommandations, en particulier sur les mesures de responsabilisation qui pourraient être prises pour empêcher que pareilles violations ne se reproduisent à l'avenir et enfin recueillir et vérifier les informations et les preuves pertinentes et coopérer avec les organes étatiques, les Nations Unies, les gouvernements américains et suédois, le mécanisme de surveillance mandaté par les Nations Unies pour la RDC et d'autres entités. La mission d'établissement des faits invite donc les individus, groupes et organisations à soumettre des informations et documents pertinents pour son mandat. Ces informations, conclut-elle, seront utilisées pour la préparation des rapports MEFKC-CNDH.
Voyons ce qui se passe sur le terrain à présent. Au Nord Kivu, par exemple, une centaine de personnes, majoritairement des jeunes garçons et filles, de la chefferie de Bito, territoire de Rutshuru, sont portés disparus. Selon un communiqué du Conseil territorial local de la jeunesse, ses habitants ont été pris, puis amenés vers une destination inconnue samedi matin à Bambo, après un bouclage organisé par le mouvement rebelle AFC M23. Rassemblés de force au rond-point de Bambo central, ces habitants de Bambo et Bougina auraient été triés selon leur présumée acquaintance avec les groupes armés Wazalendo. Au FDLR indique la même structure de la jeunesse. Un notable de la région actuellement en déplacement confirme l'information et exige la libération immédiate des personnes arrêtées. Suivons Isaac Kibira, fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur à Bambo, dans ses propos.
Malgré l'âge et malgré vraiment le statut social, tous étaient assis par force. Les M23 ont utilisé des rendus FDLR et Wazalendo qui pointait les doigts, celui-ci collabore avec les Wazalendo, celui-ci collabore avec les FDLR. Alors, on a mis ces gens-là dans des véhicules destination inconnue. Alors, cela inquiète tous les défenseurs des droits de l'homme. La population et les gens commencent à fuir ça et là. Malheureusement, une vieillarde qui était gardée par son fils, cadet, a perdu la vie hier même dimanche à l'hôpital général de Bambou. Suite à la nouvelle de mener son fils dans une destination inconnue. Nous demandons au gouvernement, aux organisations régionales et à la MONUSCO de pouvoir suivre de près ce qui se passe dans la zone et demander au M23 de libérer ces innocents, en tout cas qui n'ont rien avec ce qui se passe dans la zone.
Sachez que Bambo et les groupements voisins se trouvent au cœur d'une zone de combat récurrent entre le mouvement AFC M23 et des milices locales, notamment le collectif de mouvement pour le changement, CMC Niatura, très actif dans le secteur. Processus de Washington et de Doha, des jeunes regroupés au sein du projet Tufaulu Pamoja sensibilisés sur cette question. Ces échanges ont évidemment porté sur les enjeux de ces accords dans la consolidation de la paix en RDC. Cette activité, traduisée en français, réussissant ensemble, a réuni ce lundi à Kinshasa des jeunes leaders, étudiants et aspirants politiques dans la recherche pour la prévention et la résolution des conflits. Des précisions avec John Chiboba.
De jeunes venus des différentes structures de la jeunesse ont répondu présents. Prenant la parole, le président du Conseil national de la jeunesse appelle les jeunes à devenir des acteurs majeurs de la paix, Claude Mbouy.
J'invite ici à l'engagement patriotique, à la cohésion nationale, au vivre ensemble pour que ce pays puisse connaître une paix durable. Et si chaque jeune posait une action en faveur de la durabilité en termes de paix, on serait en train de construire la paix et d'une manière collective.
Pour la présidente de la dynamique dynamique nationale pour l'unité, la paix et la sécurité, les jeunes doivent se doter des outils nécessaires afin de prendre part à la table des décideurs. Béni Nézé.
Les jeunes doivent savoir c'est quoi la lutte du président de la République en ce qui concerne l'état sécuritaire de notre pays. Il faudrait que les jeunes puissent d'abord s'approprier ces accords pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Alors, on ne peut pas aller à la table des décisions sans connaître pourquoi nous sommes. Donc, les jeunes doivent étudier les accords, savoir ce qui est de la responsabilité de la RDC pour donner des propositions quant à ce.
Notez enfin que plusieurs recommandations ont été formulées par le jeune, notamment la création de la dynamique basée sur le problème de la jeunesse et l'identification des jeunes potentiels pour être à la table des décisions.
Nous sommes en Ituri à présent. Près de 140 enfants orphelins hébergés à l'orphelinat Saint-Quisito éprouvent d'importantes difficultés en matière de prise en charge médicale, alimentaire et d'hébergement à Bounia. Ils dorment notamment dans des conditions précaires en raison de l'insuffisance du matelas. Face à ce défi, le contingent marocain d'Amonusco a remis hier des biens, du matériel ainsi qu'un lot de médicaments à cette structure, avec pour objectif de soulager la souffrance de ces enfants dont l'âge varie entre 0 et 3 ans. Isaac Moyopé.
La plupart de ces enfants ont perdu leur mère lors de l'accouchement ou à la suite des conflits armés. D'autres ont été confiés à l'orphelinat par des personnes de bonne volonté. Leur prise en charge reste difficile, faute de moyens suffisants. Parmi les défis majeurs figure l'accès aux soins médicaux. Très fragile, au moins une dizaine d'enfants sont référés chaque jour au centre de santé Mouzi Maria, qui fonctionne avec des moyens très limités. Les médecins responsables saluent l'appui de la MONUSCO, notamment la remise de plusieurs cartons de médicaments. Docteur Matesso Innocent.
En tout cas, nous sommes très contents parce qu'il veut au moins porter. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent et puis nous n'avons pas assez de médicaments.
L'alimentation constitue également un véritable casse-tête, en particulier pour les nourrissons qui ont besoin de lait au quotidien. Les conditions d'hébergement demeurent aussi précaires. Pour y répondre, la MONUSCO a doté l'orphelinat de couvertures, des lits et des rations alimentaires. Un geste vivement apprécié par un responsable de l'orphelinat, Richard Badinga.
Et ça va aider les enfants. Si ça continue comme ça, ça va nous faire plaisir. Le nombre d'enfants que nous avons, ça nous dérange parce que nous n'avons pas les financements pour les nourrir directement.
Cette activité s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations civilo-militaires, a déclaré le commandant de la force de la MONUSCO en Ituri, présent à cette cérémonie. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Parlons santé avec cette bonne nouvelle pour la population de la commune de Massina, ici dans la capitale. HC Hospital a ouvert hier lundi son centre moderne de diagnostic des maladies. Objectif de cette initiative, accompagner le gouvernement et sauver des vies humaines et surtout faciliter l'accès des patients à des soins de santé de qualité, comme l'explique le médecin directeur de cet établissement, Joseph Bangambi, dans ses propos recueillis par Blaise Ndongala.
HJ est décidé d'amener les soins de qualité à tous les coins et les recoins du pays. Dans le district de la Tchangou et dans la commune de Massina, HJ vient planter un drapeau. Et c'est donc le drapeau de l'excellence médicale, de l'innovation et de l'équité en santé. Nous avons décidé d'aller vers la population. Devant vous s'élève désormais le nouveau centre diagnostic HJ à Massina Plaza. Ce n'est pas un simple bâtiment, mais c'est une promesse. Une promesse que la qualité des soins ne sera plus une question de quartier, des revenus ou du statut social. Une promesse que chaque Congolais, quel que soit sa couche sociale, aura accès à un diagnostic précis, rapide et fiable. Dans tous les examens basiques, l'hémogramme complet, la CRP, la VS, le WIDAL, la goutte épaisse, la sérologie, pour permettre au médecin de poser le diagnostic et de prendre correctement le malade ou la malade en charge.
Ce nouveau centre dispose d'un service de radiologie de base avec radiographie et échographie, d'une salle de prélèvement pour les analyses de laboratoire ainsi que d'une pharmacie. Au chapitre politique, le parti Alliance des démocrates congolais, ADECO, considère le dialogue national comme un haut lieu d'échange entre les gouvernants et les gouvernés portant sur les secteurs vitaux de la nation et débouchant sur des recommandations et non sur un partage de pouvoir. Son président Alain Baya l'a rappelé au cours d'une déclaration lundi devant la presse chinoise. Il soutient également la thèse selon laquelle cette rencontre politique devra servir de catalyseur pour la consolidation de la cohésion nationale et de la paix à travers le pays. Des propos d'Alain Baya recueillis par Blaise Ndongala.
L'ADECO encourage le président de la République à continuer avec des ruptures successives, des déviations politiques qui jalonnent l'histoire de notre pays, à savoir dialogue, partage d'un pouvoir, prédation institutionnalisée, sous-traitance de la sécurité du territoire national, infiltration par le mixage et brassage, transplantation des populations, etc. L'ADECO encourage le président de la République à prendre avec mesure, prudence et circonspection, les gesticulations des facilitateurs de l'Union africaine pour ne pas sortir de l'esprit et de la lettre des accords de Washington. Le seul cadre crédible, capable et digne de produire des résultats escomptés. L'ADECO considère le dialogue national comme un haut lieu d'échange entre le gouvernant et le gouverné sur les secteurs vitaux de la nation, assorti des recommandations et non du partage du pouvoir, ainsi servir de catalyseur de la consolidation de la cohésion nationale.
L'ADECO encourage ainsi le chef de l'État à maintenir le cap de la justice transitionnelle, gage de la non-répétition des atrocités inhumaines en République démocratique du Congo.
Actualité internationale.
9 personnes accusées d'avoir perpétré une attaque meurtrière dans le centre nord du Nigeria ont comparu sur place hier devant un tribunal fédéral. Ces individus ont été inculpés pour leur rôle dans la mort d'environ 150 personnes lors du massacre de Yelewata en juin 2025. Les 9 personnes font l'objet des 57 chefs d'accusation du terrorisme et risquent la peine de mort ou la prison à perpétuité.
L'invité.
Le président de la République se dit ouvert à un dialogue inclusif et apaisé en RDC. C'était lors de la cérémonie d'échange de vœux avec les ambassadeurs et diplomates accrédités en RDC, tenue samedi 31 janvier à Kinshasa. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais hier lundi sont revenus sur cette déclaration. On les écoute au micro de Guy Maté.
Bonjour, Diodoré Kishi, vous êtes président du parti politique Congo Positif, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Vous êtes initiateur du Front Anti-Dialogue National. Maintenant que votre haute autorité de l'Union Sacrée, qui est le chef de l'État, s'est dit favorable au dialogue, on espère que vous soutenez aussi cette idée de la tenue d'un dialogue.
Sur la tenue du dialogue, le Front Anti-Dialogue a toujours soutenu que le seul dialogue qui soit susceptible d'être convoqué dans notre pays, c'est celui qui s'organiserait dans le respect strict de deux principes. D'abord, le principe qui est édicté à l'article 5 de la Constitution, c'est-à-dire le dialogue qui est tenu en accord avec ce que veut le peuple souverain de la République démocratique du Congo. Pas des dialogues où certaines composantes de notre société s'accaparent de la souveraineté du peuple congolais pour exiger des dialogues, alors que le peuple souverain de la République démocratique du Congo s'est déjà prononcé, d'abord en mettant en place les institutions constitutionnelles, de deux, en allant au vote, c'est-à-dire en accordant des mandats à des élus qui, eux, ont la mission de gérer le pays, c'est-à-dire de s'occuper de tous les problèmes du pays. Le chef de l'État, c'est la personne élue qui représente cette condition-là, aujourd'hui, dans notre pays. Donc, si le dialogue est convoqué par le président de la République, dans le cadre du mandat qui lui est conféré par le peuple souverain de la République démocratique du Congo, conformément à l'article 5 de notre Constitution, ce dialogue-là, il est correct.
Martin Mkonkole, secrétaire général, adjoint et porte-parole du parti politique Alliance pour le changement, parti politique de l'opposition, dont le leader est Jean-Marc Kabunda Kabunda. Maintenant que le chef de l'État s'est dit favorable au dialogue, vous de l'opposition, que vous souhaiteriez qu'il aille jusqu'au bout, comment vous réagissez à l'idée selon laquelle ces dialogues, ça c'est lui qui l'a exprimé, ces dialogues, s'il est organisé, va se dérouler sur le territoire national et conduit, organisé par les institutions de la République, et tout cela dans le respect de la Constitution et des lois de la République et des règles démocratiques?
S'agissant des liens, nous n'avons pas à réfléchir pour les liens pour le moment, parce que Monsieur Guy, n'oubliez pas que le régime actuel est aussi parmi les partis en conflit. Si nous demandons qu'il y ait le dialogue, cela ne veut pas dire que c'est un dialogue qui est décidé et voulu par réellement les régimes en place.
Et justement, c'est ce qu'il veut. Hein?
Non, mais non, ça c'est une erreur.
Il doit convoquer et organiser ce dialogue.
C'est une erreur. Pourquoi, si réellement c'est un problème qui concernait rien que lui et ses institutions, à quoi bon parler d'un dialogue? Il en a la possibilité de pouvoir organiser des réunions comme il veut avec ses institutions. Mais c'est parce qu'ici, il y a un problème. Il y a les problèmes de l'insécurité, il y a un problème de la paix que nous n'avons pas sur le plan national. Il y a un problème de l'intégrité territoriale que nous n'arrivons pas à maîtriser. S'agissant de celui qui peut être l'initiateur, mais je crois lui-même, il l'a dit, qu'il a cité le président angolais, qui est aujourd'hui le président de l'Union africaine, qui a pris cette initiative. Nous encourageons qu'il continue avec les consultations, avec toutes les parties prenantes à ces dialogues, afin que l'effectivité se réalise.
Itiel Batumike, vous êtes analyste politique à Ebouteli, Institut congolais de recherche sur la politique et la violence en RDC. Vous venez de dire que le chef d'État a raison quand il estime que ces dialogues doivent se tenir conformément, n'est-ce pas, à la Constitution. Et aussi, il a raison quand il trace certaines lignes rouges. À votre avis, qui doit justement définir les contours de ces dialogues, Itiel Batumike?
Je pense que le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, en tant qu'arbitre, lorsque le pays est menacé, il a cette responsabilité-là de convoquer les dialogues. Mais en convoquant les dialogues, il ne doit pas être juge et parti parce qu'il est indexé par une partie de l'opinion, notamment l'opposition politique, c'est une partie de la société civile, qui pense qu'il fait partie du problème ou l'opposition qui conteste sa légitimité. Mais au-delà, je pense qu'il y a des aspects qui méritent que bien qu'il soit l'autorité qui convoque les dialogues, qu'il soit également parti au même titre que les autres parties prenantes à ce dialogue pour que les résolutions puissent se prendre dans un contexte qui permet les débats sur les vraies questions sans la contrainte d'une quelconque autorité qui aurait la supériorité sur les autres parties prenantes.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci également à vous, Guy Maté. Merci à vous tous qui venez de suivre ce journal. Il a été préparé par Devin Bwinga, mis en onde par Dieudonné Nyangasa. Passez une excellente journée.